appel sur l'actualité, 33 1 53 92 64 40, Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'appel sur l'actualité. Durant les 30 prochaines minutes, je vous propose de commenter la situation à Madagascar où la tension, vous le savez, est encore extrêmement vive après les émeutes et les pillages de lundi dernier à Antananarivo. Je vous rappelle que ces incidents ont éclaté en marge d'un rassemblement lancé à l'appel du maire de la capitale pour protester contre la politique du président malgache. Depuis lundi, au moins 34 personnes sont mortes dans la capitale. Hier, des troubles ont également été signalés dans la plupart des grandes villes du pays, faisant une dizaine de victimes. Alors hier, le président de la République a lancé plusieurs appels au calme. Le maire de la capitale a quant à lui suspendu son mouvement. Mais ce matin, le président Ravalomanana a durci le ton en annonçant qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer le maire. Et de son côté, eh bien, l'opposition se prépare en ce moment à un rassemblement qui va se dérouler à Antananarivo. Alors comment expliquez-vous cette crise à Madagascar? Que vous inspire le bras de fer entre le chef de l'État et le maire de la capitale? Vous nous rejoignez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler, 33 1 53 92 64 40. Vous réagissez également par courrier électronique, appel au pluriel .actu@rfi.fr. Et pour lancer le débat, nous accueillons Tine, qui nous appelle justement de la capitale malgache. Bonjour Tine.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous comprenez les revendications du maire?
Tout à fait. Moi, j'estime qu'on n'en serait pas si, sans les attitudes méprisables du chef d'État depuis l'élection du maire à la tête de la capitale. Mmh. Et je trouve que c'est après, parce qu'il y avait les manifestations dirigées par le maire, l'arrogance du et le mépris que le chef d'État avait vis-à-vis des manifestants, c'est ça qui a conduit. Parce qu'il faut reconnaître, en fait, c'est pas simplement la fermeture de Viva qui
alors,
a
Viva,
conduit ces manifestations.
Il faut expliquer pour tous nos auditeurs à travers le monde, Viva Télé, c'est une chaîne qui appartient...
C'est une chaîne privée qui appartient au maire de Tana.
Et elle a été fermée le 13 décembre dernier à la suite de la diffusion d'un entretien de l'ex-président, le président Ratsira, qui vit actuellement en France. Et c'est à partir de là, effectivement, que le bras de fer s'est véritablement tendu entre le maire de la capitale et le président Ravalomanana. Mais concrètement, est-ce que vous pensez que la crise, elle est avant tout politique ou est-ce qu'elle n'est pas sociale? On a vu et on a entendu, évidemment, grâce à nos envoyés spéciaux à Madagascar, certains des manifestants être déçus finalement par la politique économique menée ces dernières années par le président Ravalomanana. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le fond du problème?
Bien sûr, je pense qu'il y a la politique, mais c'est surtout, il y a aussi, je pense, les frustrations des gens à l'égard de la politique menée par le président. Vous voyez, là, récemment, je trouve vraiment, parce que là, c'est plus récent, pour l'achat de l'avion du président.
L'avion présidentiel.
Dans le contexte économique actuel, dans le contexte économique actuel, je trouve vraiment, c'était vraiment une priorité d'acheter cet avion. Alors que Madagascar, on est en vie vraiment avec les aides par des pays développés. Mm-hmm. Et ces pays-là même, ils sont en crise économique, en crise financière. Donc forcément, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, les aides pour les pays pauvres dont Madagascar en bénéficie vont être réduites, à mon avis. Mmh. Et là, on se permet de faire des dépenses, des grosses dépenses que j'estime vraiment qui n'a pas sa place pour l'instant.
Alors c'est effectivement un des griefs que reproche le maire de Tananarive au chef de l'État, c'est l'achat de cet avion Force One, avion qui appartient évidemment à l'État, hein, même si c'est l'avion qui permet au président de la République de se déplacer. Restez avec nous Tine, si jamais vous souhaitez revenir dans le débat, mais je voudrais qu'on accueille Liva, qui est à Antananarive également et qui a réagi sur le site internet de RFI. Bonjour Liva.
Bonjour Juan.
Pour vous, finalement, les deux hommes ont leur part de responsabilité, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure au Standard.
Et effectivement, ce sont des responsabilités partagées et actuellement nous constatons des dommages collatéraux. Donc la base, c'est leur ego déjà.
C'est leur ego.
Et oui, effectivement, parce que avec autant d'orgueil et avec autant de mépris sur les crises, que ce soit de l'un ou de l'autre, au lieu d'avoir la sagesse malgache de négocier et de baisser un peu l'ego et l'orgueil, ben chacun tire la corde de son côté, c'est comme la couverture. Donc, à force de mettre plus de pression sur les deux côtés de la balance, ça va s'exploser, ça va se rompre.
Ouais. Comment aurait dû réagir le maire de Tananarive après la fermeture de sa chaîne de télévision ? Lui a immédiatement dénoncé, évidemment, une atteinte à la liberté d'expression. Il a fixé un ultimatum aux autorités pour que sa chaîne de télévision puisse à nouveau diffuser. L'ultimatum n'a pas été respecté. À partir de ce moment-là, on a vu que le ton... le maire de la capitale a durci le ton. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là ?
Au lieu de dire qu'est-ce qu'il aurait dû faire, on aurait pu poser la question qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Par exemple, appliquer le principe de fusible, c'est-à-dire faire sauter quelqu'un au niveau du ministère de la Communication, rétablir ça, ça aurait pu couper l'herbe sous les pieds de qui que ce soit. Et donc, au moins, le maximum de griefs pour allumer le feu aurait été éteint.
Oui. Merci Liva de ce témoignage et de cette réaction. Bonne journée à Antananarive. 01 53 92 64 40. Jean-Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes français, Jean-Pierre, vous vivez dans la capitale. Oui. Et pour vous, cette crise, elle est avant tout sociale et économique.
Le point de départ, le maire ne pourrait pas mobiliser le peuple si le peuple ne souffrait pas depuis déjà de nombreuses années d'un appauvrissement complet. C'est le point de départ sans lequel le ressentiment contre Ravalumann n'existerait pas. Le problème est économique d'abord. Depuis que le président est au pouvoir et malgré les promesses qu'il a faites au moment de son élection ou du moins sa prise de pouvoir, eh ben aucun de ses engagements à améliorer le sort des plus pauvres n'a été tenu. Donc les pauvres sont toujours aussi pauvres, voire éventuellement plus pauvres. Et donc à partir du moment où effectivement un leader apparaît avec un certain charisme, il est facile de comprendre que la masse du peuple le suive.
Donc le maire a utilisé le mécontentement populaire pour défier le président.
Disons qu'il ne pouvait pas ignorer que il y avait suffisamment de mécontentement populaire pour qu'il soit soutenu. Je veux dire que je pense pas que la base du peuple soit extrêmement préoccupée par le fait que sa télé soit fermée ou pas fermée. Lui, il voulait récupérer sa télé. Il savait très bien que le peuple était dans une très très grande difficulté et que il serait suivi.
Ce matin, le président Ravalomanana annonce qu'il n'a pas l'intention de rencontrer le maire de Tananarive. Il accuse le neveu de l'ancien président Ratsirak, Roland Ratsirak, derrière ces émeutes. Comment vous imaginez la suite là? Est-ce que vous craignez de nouveaux débordements aujourd'hui à Antananarive?
Ah, il est probable. Aujourd'hui, hier, on a vu que le mouvement s'est étendu à l'ensemble de la province, en particulier à Tamatave, le fief de Roland Ratsirak. C'est certain que les partisans de l'ancien président Ratsirak vont certainement faire ce qu'ils peuvent pour profiter de la situation, pour tenter d'accélérer ou de finaliser le départ de Ravalumann. Alors, le problème, c'est de savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Ça reste l'inconnu total. Mais bon, c'est clair que toute l'opposition est en train de se cristalliser et de s'unifier, très certainement, face à Marc Ravalumann. Et il faudrait être Madame Soleil pour savoir qui c'est qui va gagner.
Merci Jean-Pierre d'écouter RFI et d'avoir réagi sur le site internet www.rfi.fr. Nous repassons au standard avec Lydia, qui est également dans la capitale malgache. Bonjour Lydia.
Bonjour Anne Gomez. Merci de m'avoir accepté.
C'est normal, merci d'avoir appelé. Vous êtes déçue par le comportement du maire?
Oui, je suis très déçue parce que je ne m'attendais pas du tout que ça devait passer comme ça. Et je remercie les deux derniers interlocuteurs. Ils ont dit tout à fait vrai que tous les malgaches qui pensent qu'ils souffrent tellement. Est-ce que c'est une bonne solution de détruire tout ce qu'on avait construit pendant des années?
Mm-hmm.
Et je remercie ceux qui sont derrière et je remercie également un ami qui vient de Lille qui m'avait averti depuis mois de août qu'il va y avoir un grand dégât à Madagascar avant de quitter Madagascar.
Ça veut dire quoi, voilà, Lydia, ça veut dire quoi? Que cette crise, elle était prévisible?
Pardon?
Cette crise était
programmée, hein?
Mm-hmm. Programmée, oui, ça veut dire quoi, programmée, Lydia?
Programmée dans le sens qu'on va faire bousiller tout ce qui appartient à l'actuel président Madagascar. Et si c'était des problèmes entre Andy et Ravalman, qu'ils règlent leurs problèmes.
Mm-hmm.
Personnellement, moi je trouve que c'est une bonne solution, mais ne pas amener le peuple comme ça à mourir. C'est vrai qu'il y a des pauvres, ça existe dans tout le monde entier, les pauvres, hein, monsieur Rwanda.
Ouais. Mais c'est vrai
que... C'est pas une raison de bousiller tout ce qu'on a construit. On a beaucoup souffert. Mm-hmm. Chaque fois qu'il y a une manifestation à Madagascar, ça se passe toujours comme ça.
Mm-hmm. Donc pour vous, excusez-moi Lydia, pour vous, Ange Ratzoel, donc le maire, est responsable des émeutes et des pillages de ces derniers jours.
Voilà, il est derrière... Derrière de tout ça, c'est le neveu du président, l'ancien président.
Mmh. Mmh. Mais vous comprenez, Lydia, qu'une partie de la population soit déçue à l'époque, en fin 2001, depuis 2002, Marc Ravalomanane, l'actuel président, avait énormément promis. C'est vrai qu'il avait beaucoup de défis à relever. Il s'était engagé à lutter contre la pauvreté.
Il a promis au peuple qu'il ne reçoit pas son salaire. Où est-ce qu'il en a fait de son salaire? Depuis qu'il est à la mairie de Tana, il n'a rien fait, monsieur, il n'a rien fait.
Il est maire de Tana depuis décembre 2007 et c'est à partir de ce moment-là, effectivement.
Mais il n'a rien fait. Il ne faut pas être aveugle quand même de voir la situation actuellement à Tana, il n'a rien fait. Le fait qu'il n'a rien fait, il a honte de montrer à tout le monde qu'il n'a rien fait, c'est qu'il sait que pour cacher son incapacité, il a envoyé le peuple à faim pour derrière lui.
On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci de nous avoir appelé, Lydia. Bon courage à Tana. Yves, vous êtes dans le sud de la France, à Cannes. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI, on vous écoute.
Merci de me donner la parole. Non, en fait, moi, à mon avis, ce qui se passe à Madagascar, ça ne peut pas être réduit aux actes d'une bande de casseurs, de pillards, ou à la colère du maire de Tananarive contre le président parce qu'il lui a confisqué son émetteur radio. Pour moi, ce qui arrive réellement dans toutes les villes du pays, depuis plusieurs jours, c'est une volonté populaire majoritaire de changer de gouvernement et de président, de rétablir enfin la démocratie et de sortir d'une autocratie étouffante.
Alors vous parlez de démocratie, d'autocratie, quelle dérive avez-vous constaté, puisque vous êtes français, c'est ce que vous avez dit au standard, mais marié à une malgache, hein, c'est ça?
Oui, puis j'ai vécu les événements de 2000-2001, mm-hmm. Je connais pas mal de choses de ce qui se passe à Madagascar. En fait, le président Ravalomanane a perdu la bénédiction de son peuple. Il y a d'abord la dégradation depuis 7 ans du pouvoir d'achat. La monnaie a été divisée par 3. Alors que tout le monde le sait, même en France, le prix des denrées alimentaires a explosé. Ça laisse aucune chance aux habitants et ça rend la vie impossible. Sur place, quand on habite à Madagascar, je ne parle pas de la diaspora, l'armée a été utilisée pour étouffer toute tentative de contestation populaire, tout rassemblement politique.
En même temps, l'armée était absente, hein. Il n'y avait pas de militaires et
elle
pas de policiers.
Enfin,
en tout cas, ils ne sont pas intervenus. Ils ne sont pas intervenus lundi.
Elle a enfin rejoint le bon sens. Des photos sur Internet la montrent souriante dans la foule.
En même temps,
la foule l'acclame.
Marc Ravalomanane, ce matin, dit qu'il n'a pas fait appel à l'armée et à la police pour éviter un bain de sang lundi.
C'est exactement ce qu'avait fait Ratsirak, vous vous en souvenez, en 2001. La justice a condamné lourdement et arbitrairement des opposants politiques, des médias qui n'appartiennent pas au président. Les contrôles fiscaux truqués ruinent toutes les sociétés concurrentes à celles du président. Un avion supplémentaire, plus luxueux que le premier, Air Force One Two.
Mmh.
One Two, j'insiste, acheté récemment 60 millions de dollars, dont 30 millions de sortie des caisses. Pour vous donner une idée, hein, Johan,
oui.
Construire un puits fournissant de l'eau potable aux habitants d'un quartier ne coûte pas 1 000 dollars. Je vous demande maintenant, dans quelle réalité s'est envolé le président Ravalman? Dans quelle réalité? Et pour finir, je voudrais vous rappeler quand
en
même...
En deux mots, Yves, hein, il y a d'autres auditeurs qui patientent.
1 300 000 hectares de terre ont été offertes à une société sud-coréenne pour y faire pousser du maïs.
Ouais, enfin, vous vous dites offert, est-ce que c'est le bon, est-ce que vous pensez que c'est le terme approprié?
Oui, reportez-vous à l'article du Financial Times.
Alors c'est vrai que effectivement l'opposition et le maire dénoncent ce projet agricole, c'est-à-dire que l'État, bon moi je dis cédé, oui, enfin il a cédé plus d'un million d'hectares à un groupe sud-coréen, Daewoo, pour un grand projet agricole.
Et surtout en catimini, et surtout sans aucune concertation avec le peuple malgache, pour qui la terre est sacrée, Juan.
Tout à fait. C'est un sujet sensible, hein, le secteur foncier.
Oui, et ça c'est une liste que je vous ai faite, c'est un tout petit aperçu, hein, des actes qui ont provoqué la convergence d'un ras-le-bol général de la population. Et pour parler du maire, je voudrais juste vous dire un tout petit mot. Le 22 décembre a eu lieu une réunion de soutien au maire de tous les chefs et rois traditionnels. Hein, traditionnels, là, on ne parle plus de groupes politiques. Ça, c'est les racines autour du maire. Pour vous dire à quel point, quelle est l'importance de cette chose. Ouais. Qui passe en ce moment.
On va donner la parole à Virginie qui patiente depuis un petit moment, elle nous appelle de Paris. Merci en tout cas Yves et bonne fin de journée à Cannes. Bonjour Virginie.
Bonjour Monsieur Gomez. Voilà, donc je viens d'entendre Yves et je suis entièrement d'accord avec lui. Bon, quels que soient les problèmes qui se situent au niveau politique, donc qui échappent bien entendu à la majorité de la population, il est clair que ce qui s'exprime en ce moment à Tananarive, c'est le ras-le-bol général. Ce président a été mené au pouvoir par la population de Tananarive, bon, bien sûr, en 2002. L'histoire se répète, donc... après des tas de désillusions, hein, je ne reviendrai pas sur les histoires de terrains cédés à Daewoo et toutes sortes de hausses de prix, etc., qui font certainement, qui blessent jusqu'au fond de même tous les Malgaches, et jusque dans leur chair, puisque pour aller prendre des bouteilles de lait ou des flacons de Coca-Cola dans les grands magasins du président, il faut vraiment qu'une population en ait assez.
Le président qui dispose effectivement d'un groupe agroalimentaire, c'est aussi un homme d'affaires. Hein. Avant de se lancer en politique, il avait déjà plusieurs affaires, des supermarchés, chaînes de télévision, de radio.
Au pouvoir, d'ailleurs, tout le monde sait pertinemment que ses affaires se développent parfaitement. Il est en train de mettre la main sur tout ce qu'il peut dans le domaine risicole. Il faisait du lait et des yaourts. Bon, ben maintenant, c'est le lait, le riz, les fruits, le riz qui est quand même l'aliment de base des Malgaches.
Mais Virginie, voilà. Comment débloquer la situation aujourd'hui? On voit bien que sur le plan politique, elle est bloquée. Le président ne souhaite plus parler ni dialoguer avec son principal adversaire actuel, le maire de la capitale. Quel scénario de sortie de crise peut-on envisager?
Certainement la négociation, parce que les émeutes, ça ne sert à rien, effectivement, devoir reconstruire, mais qu'au moins... notre chef de l'État se rende compte qu'on n'est pas content de lui, que ça soit une sonnette d'alarme, si vous voulez, s'il a un minimum d'intelligence et en tout cas de sens de la responsabilité de son pays, bon ben qu'il entende ce qui est en train de se faire à Tana et qu'il comprenne que ce ne sont pas seulement des coteries. Qui sont là en train de se faire entendre, c'est la fin de la population, c'est le ras-le-bol, voilà. Et puisqu'il est tellement attaché aux choses religieuses, qu'il sache que c'est l'enfer qu'il attend s'il continue à se comporter de façon aussi malhonnête vis-à-vis de sa population.
On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Virginie d'avoir appelé de Paris. Si vous souhaitez évidemment réagir à la situation à Madagascar, un seul numéro de téléphone, 01 53 92 64 40, 33 1 53 92 64 40 si vous nous contactez de l'étranger. Yasmina, bonjour.
Oui, bonjour Juan, je vous appelle de Tana, merci de me donner la parole. Effectivement, deux hommes bloquent la situation. Il y a 17 autres millions de Malgaches qui ont le droit de vivre dans la sérénité pendant tout ce temps-là. Or, pendant cette période de crise, plus rien ne marche. Les prix flambent, il y a des difficultés d'approvisionnement, l'économie est bloquée. Pendant tout ce temps-là, rien ne marche. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les revendications actuelles, à savoir qu'il faut un peu plus de démocratie, de paysage. Notre paysage politique, Rouen, n'a qu'une seule couleur. Comment voulez-vous que ça marche? Il manque de la transparence dans la gouvernance.
Yasmina, vous parlez mais l'opposition aujourd'hui, elle n'existe pas réellement? Elle ne joue pas son rôle d'opposition?
L'opposition n'est pas structurée. L'opposition agit en ordre dispersé, donc n'a pas de poids pour contrer le pouvoir. Les médias ont peur. Les médias, ceux qui osent ouvrir leur antenne au public, sont menacés de fermeture, si ce n'est déjà pas fait. Et
pourtant, Yasmina, vous qui êtes sur place, vous savez que plusieurs radios ouvrent justement leur antenne aux auditeurs, comme nous ce matin, pour réagir sur le quotidien des Malgaches. Ça existe, les émissions interactives.
Vous avez de la chance, Rouen, parce que vous êtes basé à Paris.
Non, mais
à
Tana,
il y a plusieurs radios qui ont dû fermer leurs antennes. Pour n'en citer que deux, en province, c'est pareil.
Yasmina, merci beaucoup. On va repasser au standard au 33 1 53 92 64 40. Voilà, on me fait signe. Christian est à Nairobi. Bonjour, Christian.
Bonjour, Rouen.
Vous nous appelez du Kenya. Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, alors mon analyse sur la crise à Madagascar, pour moi c'est une crise sociale liée à une crise économique galvanisée par une crise politique. Il faut comprendre que la société malgache est une société à deux vitesses, donc une frange de population qui s'enrichit, c'est très bien, et une grosse majorité qui vit en dessous de la pauvreté. Et pour étayer mes dires, j'ai été... particulièrement frappé, j'étais à Madagascar en décembre dernier, j'ai emprunté, si vous voulez, la RN7, une très belle route, et j'ai vu sur cette route des gens complètement dénués marcher sur de longues distances, avec un gros fardeau sur le dos, parce que ils n'ont plus d'argent pour payer le taxi brousse.
Quand on regarde les chiffres, Christian, je ne sais pas si vous m'entendez, mais quand on regarde les chiffres, la croissance elle est de 4 à 5 % comment se fait-il que la population ne puisse pas bénéficier de cette croissance?
Ben, le problème est là, c'est que justement cette croissance n'est pas répartie sur la majorité des gens. Et juste aussi un autre symbole, c'est que cette explosion sociale s'est traduite entre autres par une attaque des symboles de la richesse que la majorité de la population ne peut pas y accéder. Donc je parle des grandes surfaces par exemple et des grands magasins qui ont pillé pendant les deux jours.
Et aujourd'hui, comment vous imaginez cette sortie de crise? Le dialogue, disait tout à l'heure une auditrice, la négociation, mais on négocie quoi exactement?
Tout d'abord, Madagascar est un pays de palabres, de négociations et de discussions. Donc que les deux protagonistes fassent montre de cette sagesse bien malgache. À eux de faire taire leurs différends, parce qu'il y a de l'intérêt du pays.
Christian, merci d'avoir appelé de Nairobi. Alors on me donne plein d'indications en même temps. Louise, Albert, Franck, qui prend-on? Albert, alors. Bonjour Albert.
Bonjour Juan.
D'où appelez-vous?
J'appelle de Paris. D'accord. Moi, mais je suis à Madagascar très très souvent. Mm-hmm. Bon, je peux vous dire que ça fait quand même 4 ans que on sentait qu'il allait se passer quelque chose à Madagascar, parce que vraiment le peuple a faim. Ravalomanana a promis tellement en 2002 qu'il n'a jamais tenu ses promesses. Le problème, c'est qu'il se comporte à l'heure actuelle comme un véritable dictateur. Il ne supporte personne. Tous ceux qui lui font opposition sont ou virés, ou mis en prison, ou écartés. À commencer par un de vos... Olivier Peggy, qui travaillait chez vous à l'époque, oui. Qui s'est bien fait virer par Ravalomanana. À l'heure actuelle, Grégoire, il n'est pas dans les très bons papiers de Monsieur Ravalomanana.
Le correspondant de RFI et le correspondant également de l'agence France Presse. La sortie de crise aujourd'hui, à l'instant, Christian Malgache de Nairobi disait, voilà, nous, notre force, c'est le dialogue. On sait dialoguer, on sait négocier.
Bah, vous savez, ça sera difficile de dialoguer avec Ravalman parce que c'est un homme qui maintenant, il est imbu du pouvoir, il est imbu de lui-même. Il ne veut qu'une chose, c'est que le sommet de l'UEA se tienne fin juin, début juillet, et qu'il devienne le président de l'Union africaine, le président de toute l'Afrique. Ça va être son sacre.
Ouais, mais en même temps, il va falloir.
Il est prêt à tout pour arriver à ça.
Hier, il disait vouloir dialoguer avec son principal rival.
C'est un menteur. Il a toujours menti et tout ce qu'il veut, c'est arriver à ses fins. Il l'a toujours prouvé jusqu'à présent. Regardez ce qu'il est en train de faire. À l'heure actuelle, il est en train de fermer tous les sites internet qui parlent de Madagascar. Donc, il a un pouvoir quand même important dans le pays. On sait que c'est un homme qui est très riche. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Afrique à l'heure actuelle.
Il est très riche. Le maire de la capitale est également riche. C'est un homme d'affaires moins riche. Mais...
Ravalman. Et Ravalman a en plus l'appui de la communauté internationale. Le problème, c'est que la communauté internationale a fermé les yeux pendant des années à Madagascar. On donne de l'argent tout le temps. Et
Albert...
que fait le dirigeant de ce pays? Il se met l'argent dans les poches.
Bon, Albert, je suis obligé d'interrompre là l'émission et on est obligé de rendre l'antenne pour le journal et la suite des programmes sur RFI. On aura l'occasion, bien évidemment, de poursuivre ce débat. Vos réactions très nombreuses. Merci vraiment de l'intérêt que vous portez à l'émission. On peut en parler demain. 01 53 92 64 40. Le standard reste ouvert. Claire Edon, bonjour.
Bonjour, Juan.
Priorité Santé s'intéresse aujourd'hui
aux hépatites. 20 ans après la découverte du virus de l'hépatite C, on va faire le point sur les derniers traitements. On va aussi parler de l'hépatite B parce que vous savez qu'elle est très présente sur le continent africain. Mon invité, le professeur Patrick Marcelin, a organisé la semaine dernière un grand congrès mondial à Paris. Donc on va faire le point sur toutes ces questions-là pour lui poser des questions. Allez. Toujours un même numéro de téléphone, le 33 1 56 40 18
22. 01 56 40 18 22. Claire Edon et toute son équipe vous attend. Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée et à demain. Bonne journée.